radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici, soutien la musique locale.
Ineige souffle. L'Europe du Neige est habitée. Les premiers signes de vie captés en 2019 depuis un petit cirque sont devenus un intense festival où humains, aliens et autres créatures mythologiques dansent furieusement. Visa accordée à toutes celles et ceux qui ont la tête dans les nuages. Simène. Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Picardie.
Elle est picarde, elle est romancière et elle donne son billet d'humeur tous les jours sur l'antenne Ici Picardie du lundi au vendredi. Karen Ponte s'éparpille. Bonjour Karen.
Bonjour. Quand on vieillit, on repense souvent avec nostalgie à nos années d'adolescence, à la limite de lancer à la cantonade cette fameuse phrase « c'était quand même mieux avant ».
Ah.
C'est étrange quand même cette affirmation parce que quand on y réfléchit un peu, tout n'était quand même pas au top hein, avant. Prenons par exemple le cas des moyens de télécommunication avant l'avènement des téléphones portables. En ce qui me concerne, j'ai connu les tatous, ces petits boîtiers noirs qui nous permettaient hein, de savoir que tel numéro cherchait à nous joindre et bah c'est tout en fait hein, parce qu'il fallait alors trouver une cabine téléphonique, espérer avoir encore des unités sur sa carte téléphonique pour rappeler la personne. À l'époque, le must c'était ceux qui avaient des tam-tam. Et là, il y avait comble du luxe, un message qui s'affichait sur l'écran. Bon, on ne pouvait toujours pas répondre. Hein. Pour cela, il fallait trouver une cabine, espérer avoir des unités sur sa carte, dicter son message à une opératrice qui, elle, l'envoyait sur le tam-tam de l'émetteur. Je suis pas certaine hein, du « c'était quand même mieux avant » dans ces conditions. Et je crois qu'on pourrait multiplier ce genre d'exemples. C'est ce qu'on va faire toute l'année, la suite donc aux prochains épisodes. Je vous dis à demain et d'ici là, rappelez-vous qu'être focus, c'est bien, mais qu'être éparpillé, c'est encore mieux.
Karen Ponte, romancière picarde, donc à retrouver évidemment sur notre site ici.fr.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Lorraine.
On sait qu'on est Lorrain parce que quoi, Nicolas Turon, aujourd'hui?
Parce qu'on s'est déjà perdu au café entre deux ponts de Revigny-sur-Ornain.
D'accord.
Revigny-sur-Ornain, au sud de la Meuse.
Non, j'y suis pas du tout. Allez-y.
Bah, c'est une petite ville où il y a deux ponts. D'accord. Il y a deux ponts. Il y a celui qui passe au-dessus de la voie ferrée.
Deux ponts avec un T et un D ou deux ponts?
Non, on n'est pas chez Tintin. Non, non, TS. Il y en a un qui passe au-dessus de la voie ferrée et un qui passe au-dessus de l'Ornain.
Oui.
Et quand on sait que l'Ornain, la rivière, naît de la confluence de deux rivières qui sont l'Ognon et la Maldite.
Bien sûr.
On imagine l'ambiance qui règne dans ce bourg de la Meuse.
L'odeur,
oui. On a peur que ça sente le ragoût et la soupe. Mais, à deux pas des ponts, il y a la poésie particulière du café entre deux ponts, dans lequel on ne boit pas de pont, ça c'est à Pont-Tarlier, mais du café et des picons. Longtemps, le bistrot a servi du vin bon à nettoyer le comptoir, du vin à boire à deux, un qui le boit, l'autre qui le tient. Dans le café, il y a Daniel, le patron, un élégant, haut de Cologne, et Gomina dans les cheveux, un érudit du terrain, savoir acquis sur le tas, un sens de la répartie aiguisée et une obsession, proche de l'art brut, pour ses carnets. Cet homme que j'ai rencontré écrit des livres à la main depuis des années, des manuscrits édités à un seul exemplaire. le sien. Daniel achète ses carnets chez Action, les remplit en entier, hein, souvent des pamphlets politiques, et les montre aux clients de passage. Il a une bibliothèque d'une quarantaine de carnets écrits par lui-même, dans l'arrière-boutique, une salle décorée avec les maréchaux de Napoléon. Mais il ne s'arrête pas là, il enregistre ensuite des extraits de ses propres textes sur des cassettes, en ayant des accents du général de Gaulle, et se repasse les bons morceaux pour se faire plaisir. Lorsqu'il rédige ses pamphlets à l'écrit, il écrit en rouge les passages sur lesquels il faut, je le cite, « porter l'accent », parce que ce sont les passages qu'il enregistrera à l'oral. Mmh. Et quand il écoute ses propres textes, fou, il dit de lui « Ah bah quand je m'écoute sur les cassettes, je me dis « Mais putain, mais c'est la vérité !» Ses clients sont des prosateurs, eux aussi. Voici quelques brèves arrachées au comptoir meusien. J'ai vraiment entendu là-bas. Hein? J'ai « Ah, j'ai lu que l'espérance de vie pour les hommes était de 76 ans. Eh ben, il me reste plus qu'un an. » Ou encore « Oh bah tiens, voilà Bachibouzouk. Bah alors, t'as pas bronzé en vacances? Tu sors de tôle ou quoi ?» Encore. Dans le journal, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, c'est au choix. Bah, moi, j'ai fait mon choix. Un dialogue magnifique. Bah, Eric, pourquoi t'as rasé ta moustache et pas la barbe?
Je voulais me raser la moustache parce que c'est pas pratique quand on fume, mais je l'ai cramé avant.
Et enfin, ma punchline préférée de tous les temps, c'est peut-être un classique, mais moi, je l'ai entendu là-bas. Je vous laisse avec ça. À la place de c'est la fin des haricots, il y a un gars qui a dit, eh ben, c'est la fin des daricoles.
Ici, la nuit. On prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Normandie.
Vous collectionnez quoi, vous, à part les emmerdes? Les boîtes de camembert, les cotons-tiges, les cartes Pokémon, les résidences secondaires? Non, parce que tout se collectionne, en fait. Je vous propose de vous arrêter chez Jean-Pierre, histoire qu'il nous montre ce qu'il a à la cave.
Ça va les amis?
Il est à sa clôture et de l'autre côté de la clôture, il y a des gens.
C'est les voisins ça alors?
Ouais, c'est mes voisins.
Il se trouve qu'ils habitent la maison d'à côté et tout,
voilà,
c'est top.
C'est gentils voisins.
Parce que des fois, t'as des voisins qui habitent à Perpète.
Non, mais salut. Non, nous, on est vraiment à côté.
Des vrais voisins, quoi.
Yes.
Salut. Ça va toi?
Ça va.
Sympa l'ambiance, mais JP, il avait pas un truc à nous montrer?
Ah, bah dis, t'as déjà sorti quelque chose en plus. Oui, j'avais pas fait attention.
Je voulais te faire de la place dans le musée quand même pour que tu puisses circuler.
Non, mais ce monsieur, il a son petit pavillon. Alors,
donc, voilà,
dans un coin qui est hyper bruyant, comme on l'entend.
Voilà, voilà.
Sous-sol, toi, tu nous fais un
voilà,
musée.
Voilà, donc je me suis fait un petit musée privé.
Je sais pas, moi, c'est un quoi? Un musée du coton-tige?
Non.
T'as des
non,
cotons-tiges
donc
de collecte?
Le musée s'appelle le Motobécane Passion Muséum.
On va voir ça.
Donc là, on va rentrer dans le musée.
T'as utilisé tout ton sous-sol pour ça, alors?
Ah, mais il s'est chanté, en plus. Qu'est-ce qu'on disait, sinon?
T'as utilisé tout ton sous-sol pour ça, alors?
La moitié du sous-sol.
Ouais.
Si tu veux, avec mes premiers salaires, je me suis payé ma première moto.
Ouais.
125 LT1, mais qui était verte au lieu d'être orange. Et j'étais renversé par une personne qui n'avait pas de permis, pas d'assurance et une voiture pas elle.
La moto, c'était fini.
Bon, bah, j'ai arrêté, hein, forcément, bon. Parce que j'ai été amputé quand même. Donc, oui, je suis amputé d'une jambe, hein, j'ai une prothèse.
Attendez, la suite est plus sympa.
Il y a un moment dans ma vie où j'étais pas très très bien. Donc, mes enfants ont dit, tiens, on va peut-être trouver quelque chose pour essayer de redonner du moral au papa.
À qui?
Au papa.
Ah, ok.
Et puis, bah, ma fille a pensé à me racheter une petite 125 LT3 qui est là, qui est bleue.
Et c'est de là que tout est parti.
C'est la première que j'ai restaurée, je dirais, mais l'âge de mes 50 ans.
Ça fait quasiment que 20 ans, en fait,
voilà.
Que tu restaures des motobécanes.
Voilà, c'est ça.
Donc, on en était au cadeau de sa fille.
Et donc, je l'ai restaurée sur les fesses, parce que je ne pouvais pas être debout. Et puis après, j'ai voulu en faire une deuxième pour mon fils. Et puis, ma fille m'a dit un moment, elle me dit, papa, t'as combien d'enfants?
Ça peut arriver qu'on ne sache pas. Hein.
Bah, j'ai dit deux. Bah, elle me dit, pourquoi? Tout le monde n'a pas fait une troisième.
Pour moi,
bah, oui.
Ta fille.
Voilà, donc j'ai fait une troisième.
Bah,
puis de la troisième, je ne suis pas arrêté.
Donc, il en a restauré combien des motobécanes?
J'ai fait toute la gamme des 125, en passant par les motos de l'administration française, et puis en passant aussi par le fameux fleuron de cette époque-là, des années 70, la fameuse 350 motobécane.
Il y en a une qui te manque? Une que t'aimerais avoir, que t'as pas, que j'aille te la chercher, là.
Bah, peut-être la 500.
Bon, bah, je vais lui trouver ça.
Mais c'est pas possible, puisqu'elle est au musée de 50 ans.
Ah, il y en a qu'une?
Il y en a qu'une, c'est un prototype, c'est tout.
Si on y va la nuit,
non.
Discrètement.
Il y a plus d'une vingtaine de motos dans son petit musée à JP.
Voilà.
Mais pas que.
Des affiches de l'époque, des objets de l'époque qu'on retrouvait dans les concessions motobécanes au moment de Noël, on offrait un petit vélo.
Vous savez que Jean-Pierre, il peut vous le faire visiter, son musée à Saint-Pierre-les-Elbeuf.
Il y a des belles choses à voir quand même.
Allez faire un tour sur l'appli ici, je vous y ai mis de belles photos et les coordonnées de Jean-Pierre.
I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I would need a queen and a palace and everything. Yeah. And now I am king, and my queen will come at dawn.
Société. n'est pas si mal. Et c'est normal. C'est le progrès.
La nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Itinéraire bis à Avallon cette semaine. J'ai choisi de m'arrêter aujourd'hui au Silo Rouge avec nous Guillaume Dallot. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Le Silo Rouge, c'est quoi ici à Avallon?
Alors, c'est un magasin de producteurs avant tout. Tous les produits ici présents sont produits ou transformés dans le département de l'Yonne ou le département limitrophe. Et donc, on a une centaine de producteurs qui livrent le magasin régulièrement pour avoir des produits frais, des produits secs, de quoi faire les courses toutes les semaines.
Vous avez fait connaissance avec ce magasin, le Silo Rouge, de quelle façon, Guillaume?
Eh bien, ma femme, Adeline, est maraîchère depuis plus de 10 ans à Vaudeluny. Et donc, elle a créé ce magasin avec d'autres collègues en 2018, en mars 2018. Il y avait 9 associés à l'origine de ce magasin. Moi, j'étais sur une autre activité et je l'ai rejointe dans les jardins en 2020. Et donc voilà, je fais partie maintenant de l'équipe du magasin du Silo Rouge.
Quelles sont les caractéristiques de ce magasin?
On a vraiment souhaité mutualiser la commercialisation. En agriculture, c'est toujours un peu compliqué d'être à la fois à la production qui nous prend beaucoup de temps, d'énergie, et de pouvoir valoriser nos produits sur des circuits courts et aller sur d'autres marchés que la filière longue plus classique.
Et puis, vous vous succédez à la tête du magasin, c'est-à-dire que si je viens le mardi et si je viens le mercredi, je ne verrai pas les mêmes têtes.
Exactement. L'objectif du magasin, c'est qu'il y a toujours un producteur en présence dans le magasin, donc aussi bien que ce soit sur l'aspect administratif ou sur l'aspect vente. Ce qui fait qu'on se sépare, on se répartit les différentes demi-journées de vente. Et donc, il y a normalement toujours un membre de chaque structure des associés, donc souvent l'associé, qui est présent en vente avec notre équipe de 2 salariés qui permet de faire toute la gestion du magasin au quotidien.
Ça vous apporte de quoi? C'est de rencontrer vos clients?
Eh ben, quand on a la tête baissée à travers dans nos activités, les légumes ou autres, parfois c'est un peu difficile quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut un peu trop souvent à nos goûts. Et ben, le fait de rencontrer les gens, on sait pourquoi on fait ce métier. Ça donne un sens à ce qu'on fait, c'est valorisant pour nous d'avoir des retours généralement positifs et ça nous donne envie de retourner, de bêcher et puis de reproduire de nouveau et que ça soit à travers ce magasin nous permet effectivement d'avoir ce retour positif et ce qui est valorisant pour nous et donne un sens à ce qu'on fait au quotidien.
Est-ce qu'on peut parler de la philosophie de votre exploitation?
Une des philosophies qui nous tient à cœur, c'est effectivement la source d'emploi que procure notre activité, que ce soit dans nos jardins, où je travaille avec ma femme Adeline et également 3 salariés, dont 2 temps plein. Et au magasin, on a également 2 temps plein, au magasin de producteurs Le Silo Rouge. Et donc, on voit bien que l'argent que les gens dépensent en consommant nos légumes ou d'autres produits au Silo Rouge permet de rester sur le territoire et de faire vivre l'emploi. Et ce qui nous tient particulièrement à cœur, d'avoir des gens habitant sur le territoire, travaillant sur le territoire pour des produits sains et de qualité.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Bonjour Olivier, on parle donc de cuisine aujourd'hui?
Tout à fait, et on fait un viron du côté du nord du département. Bonjour les amis, petit tour du côté du pays rouennais aujourd'hui. Comme on y dit là-bas, la gastronomie c'est très important à Rouen. Vous en avez peut-être écouté parler. Sur le plan linguistique, le Y pronom neutre, on y aime bien dans le nord du département. Et je vous rappelle que le verbe entendre n'existe quasiment pas. À Rouen, on écoute. Donc vous avez peut-être écouté parler de l'importance de la gastronomie là-bas. Alors la figure tutélaire, c'est la maison Trois Gros, 3 étoiles au guide Michelin. Le restaurant tenu à partir de 1930 à Rouen par Jean-Baptiste Trois Gros et son épouse Marie, puis par leurs fils Jean et Pierre, et enfin par leur petit-fils Michel, qui s'est installé depuis quelques années à Ouche près de Rouen, et maintenant son fils César. Vous avez remarqué comment je dis Rouen en une syllabe plutôt que Rouen en 2 syllabes? C'est comme ça qu'on y dit dans la région. Donc vous l'avez compris, la gastronomie c'est important, c'est number one. Les gens aiment bien les douceurs aussi, hein. La région rouennaise, c'est la terre où l'on a fait la vraie papillote, celle qui est faite chez Révillon en Coteau. Ça va être de saison. Et puis, nous avons la praluline, une brioche au beurre et aux pralines roses, créée par Auguste Pralu en 1955. Au fait, la pâtisserie et chocolaterie Pralu, c'est bien d'origine rouennaise, même si on en trouve un peu partout aujourd'hui, et même si les Lyonnais tentent de se l'approprier. Non, les gones, Pralu, c'est rouennais. Les pralulines, ils en font tellement qu'il faut qu'ils prennent très tôt le matin. Prendre, ça peut vouloir dire embaucher, commencer le travail dans le parler rouennais. Alors, attention quand même avec les papillotes et les pralulines, hein, si vous avez une chemise blanche, parce que vous pouvez vous faire une catole, c'est-à-dire une tache. Par contre, après avoir mangé, vous aurez la caisse. À d'autres termes, vous serez en forme. Les ch'tis, ils adorent. Oui, à Rouen, on parle volontiers de ch'tis pour désigner les enfants. Ne pas confondre avec le ch'timi du Schnorr. Un événement incontournable de la région rouennaise, c'est Rouen Table Ouverte, RTO pour les intimes, dans lequel gastronomie et spectacle vivant se rencontrent pour le plaisir des papilles, des yeux et des oreilles. Un autre grand rendez-vous, c'est le Salon de la Gastronomie, organisé par le comité des fêtes au Coteau et qui se tient depuis quelques années dans la grande salle du Scarabée à Riorges. On y propose le meilleur de la production d'une centaine d'exposants et leur savoir-faire. Et même si ça pleut, et si la pluie vous y craignez, comme on dit volontiers à Rouen, c'est-à-dire si vous n'aimez pas ça, vous serez bien à l'abri au Scarabée. Au Scarabée, on peut s'étendre, mot du patois rouennais qui veut dire se réchauffer. Voili voilou.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Pays de Savoie.
En Pays de Savoie, la place du village, c'est d'abord une émission de télé, c'est une grande communauté sur les réseaux sociaux et c'est aussi un rendez-vous quotidien sur votre radio ici Pays de Savoie avec Jean-Noël et Philippe de Paris. C'est l'heure d'une nouvelle histoire, quelque part en Savoie, avec vous Philippe, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous.
Ah, parmi vos rencontres, là vous êtes allé dans une étonnante série de Montémont.
Eh oui, on est allé à Montémont, c'est la direction de la Maurienne. Et on s'arrête justement dans le hameau de la Scie, au-dessus du beau village de Montémont à 1300 mètres d'altitude. Et là, on rencontre Joël Gontier dans une scierie, mais pas n'importe quelle scierie, une scierie complètement dans son jus, une scierie d'époque. Et Joël nous dit, c'est une scierie qui a été mise en place par mon grand-père et je tenais absolument à la remettre en route. Elle a commencé à fonctionner en 1905. Elle a été créée d'une manière assez curieuse lorsqu'un village d'à côté a brûlé et comme on ne pouvait pas tout refaire tous les toits avant l'hiver, il a fallu créer la scierie justement, pour faire le bois, pour faire les chalets du village qui avait brûlé, vous avez compris.
D'accord.
Un bel exemple de solidarité à l'époque.
Et puis ce qui manque, il a été fidèle à la scie. Combien de temps il a mis pour la refaire?
Il a mis 4 ans pour la refaire de A à Z, c'est un énorme travail. Aujourd'hui, cette scierie à l'ancienne marche parfaitement, c'est un véritable plaisir d'avoir fonctionné. Elle fonctionnait autrefois à l'eau avec un petit barrage en amont, comme toutes les scieries, avec une conduite forcée bien sûr. Au bout de la conduite, il y avait une roue à aube, hein, comme autrefois d'ailleurs. Il fallait 12 heures pour remplir la retenue d'eau. Et à l'époque, on sciait, nous dit-il, tous les jours, y compris le dimanche, dès qu'il y avait de l'eau, on sciait. Et le torrent sur lequel se trouve la scierie a une particularité, il ne gèle pas en hiver. Je rappelle qu'on est à 1300 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on peut travailler toute l'année.
Est-ce que cette scierie fonctionne encore aujourd'hui?
Absolument, Laurent, elle fonctionne toujours. Et si quelqu'un a besoin de couper un sapin pour faire quelques planches, aucun problème. Il nous dit aussi, Joël, qu'on fait des chevrons avec la charpente, et tout ceci se fait dans la plus grande convivialité. Or, c'est pas industriel, attention. Et Joël nous précise que c'est justement la scierie qui a donné le nom du village. La scie, mais ça, on s'en est
douté. Est-ce qu'on peut la visiter?
Oui, on peut la visiter. Il y a même des touristes qui viennent la visiter, cette scierie, par l'intermédiaire de l'Office du Tourisme de la grande station d'à côté. C'est Saint-François-Longchamp,
que vous connaissez pas très bien.
Et ça se fait durant l'hiver, un jour par semaine. Il y a même des touristes qui veulent repartir avec une planche, nous dit Joël. Joël qui montre aussi ses outils, hein, pour aller chercher le bois, pour descendre dans la scierie à tous ces touristes. Et si vous passez un jour par Montémont, n'hésitez pas à vous arrêter. Demandez à Joël, il se fera un grand plaisir de vous montrer sa scierie à l'ancienne. Il est intarissable, il est passionné et passionnant.
Et toutes les rencontres des frères de Paris dans la place du village sont à lire et écouter sur ici.fr.
Ici.
Ici. Vous écoutez ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Sauvage Continent, le nouveau titre de Stéphane Echer.
Un coup de cœur ici.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur? Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? tu découvres quel sauvage continent. Mais comment deviner qu'ira en enfer, ou qui paiera le prix, ou qui paiera le plus cher. C'est la mélancolie, les avis diffèrent. Certains voient tout en gris, certains deviennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent, quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent. Rien y faire. Mais comment deviner que nous serions en guerre, qu'il faudrait se quitter, ne plus revenir en arrière. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent, quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent.
La nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Belfort Montbéliard.
J'ai un vieux tour Chaublin des années 50. Je le regarde chaque jour. Je me régale juste de le voir.
Ici Belfort Montbéliard, les comptoirs qui comptent. Noah Sommier.
Martin, vous vous êtes lancé à 45 ans dans une magnifique aventure, les objets mécaniques en tout genre, comme des montres, des goussets, des réveils ou encore des jouets. Et bien tout ça, ça retrouve une seconde jeunesse grâce à vous. Votre atelier s'appelle « Et le temps passe ». C'est magnifique comme nom, Saint-Martin.
Vous savez, ce nom vient de mon premier cours de français qui était encore en cassette. Et il y a une conversation... Et cette phrase « Et le temps passe » me restait en tête, je ne sais pas pourquoi, et ça m'a servi comme nom pour mon entreprise. Mais ça date, hein, ça date 20 ans au moins.
Est-ce que vous vous rappelez d'un déclic dans votre parcours qui vous a fait basculer dans l'univers de l'horlogerie ?
Le déclencheur, c'était un film où il y avait des horlogers dedans. J'ai été ingénieur avant, j'ai reconverti à l'âge de 45 ans. J'ai toujours aimé réparer, restaurer, bricoler. Ça m'accompagne depuis mon adolescence finalement. C'était des vieilles radios, des postes de radio, c'était des motos, c'était des petits trains électriques. J'ai toujours aimé remettre en état, redonner une nouvelle vie. Et j'ai pris l'école, j'ai passé 3 années d'école à Pforzheim, à l'école en Allemagne.
Concernant les objets qui passent dans vos mains, est-ce que vous aimez travailler un objet en particulier ou est-ce que vous êtes fier d'avoir un objet en particulier dans vos mains ?
Ce que j'aime beaucoup et ce qu'il arrive rarement, ce sont des grandes sonneries, des pendules neuchâteloises, par exemple. Ce que j'aime, c'est surtout des objets où c'est pas juste comme d'habitude. Ça veut dire il y a un peu plus de challenge, on peut dire. Il y a des dégâts qui ne sont pas évidents à réparer. Il faut trouver une solution, il faut réfléchir, il faut se renseigner. Et j'aime tout ce qui sort un peu d'ordinaire.
Et Martin, si on pousse la porte de votre atelier qui s'appelle Le Temps Passe, qu'est-ce que vous nous partagez en premier ?
Ma passion pour l'outillage, parce que surtout dans le passé, l'outillage d'horlogerie, il avait toujours une beauté. Il y a toujours, c'est bien travaillé, c'est du laiton, c'est juste la beauté des mêmes machines. J'ai un vieux tour Chaublin des années 50. Je le regarde chaque jour, je me régale juste de le voir.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Besançon.
Ici matin, jusqu'à 9h, Loïs Paton, Anne Fauvarc.
Il est 7h40, l'heure de retrouver Arnaud Fromage pour la nécessaire Minute Comtoise. Un peu d'infos insolites, hein. Bonjour Arnaud.
Bonjour Loïs, bonjour Anne, bonjour à tous.
Aujourd'hui, 1er septembre, c'est le jour de la rentrée scolaire. Donc première leçon, il y a 310 ans, mourait le roi soleil Louis Xive.
Alors on dit 14, mais oui, vous avez raison, Louis XIV est bien mort un 1er septembre. Sûrement une angoisse à l'approche de la rentrée, ça l'histoire ne le dit pas. Ce qu'elle nous dit, en revanche, l'histoire, c'est que si la Franche-Comté est française, eh bien c'est grâce à lui. Bon, il a dû s'y reprendre à deux fois, il a galéré pendant 9 mois, mais ce qui compte, c'est les 3 points comme on dit, et le match s'est déroulé d'octobre 1673 à juillet 1674. Au départ, les Comtois résistent bien, mais à partir de février, Louis XIV décide d'envoyer des soldats en masse qui vont commencer à prendre une grande partie de la Haute-Saône avec une technique qui a fait ses preuves, celle du bon vieux siège, à Grez, par exemple, du 23 au 28 février 1674. Et ça marche. Les Français continuent alors direction le Jura. À Arbois, les habitants fuient en apprenant l'arrivée des Français car ils savent leur ville peu défendue. Poligny résiste 2 jours, Orgelet est conquise le 1er avril.
Et c'est à ce moment-là que Louis XIV en personne arrive en Franche-Comté.
Oui, il veut être là pour la prise de Besançon, capitale économique, et de Dole, capitale politique et religieuse. Le 19 avril 1674 démarre le siège de Besançon et le 2 mai, Louis XIV débarque donc avec son armée perso. Et laissez-moi vous dire que ça canarde sur place. Il y a des canons installés à Brogy et à Chaudanne. Le roi fait creuser des tranchées à Chamart pour inonder le secteur. Le 5 mai, alors que Louis Tho est en visite à Chaudanne, un boulet de canon le manque de peu, en passant à moins de 10 mètres de sa tronche. Et pendant ce temps-là, Vauban, en vieux routier qui lui en est à son 22e siège, se dit que ça ferait pas mal une citadelle dans le paysage et commence à prendre des mesures. Les Byzantins finissent par se rendre le 22 mai 1674, après avoir tenu 33 jours. Louis XIV monte alors à Beauregard et contemple la ville qu'il vient de conquérir.
Mais il reste une question, Arnaud.
La question intendance. Où donc Louis XIV était-il installé le temps du siège de Besançon? Bah oui, il n'a pas pris un mobilhome au camping municipal, le bougue. Il s'est installé au Tilleroy. Et si vous y passez, il est facile de repérer l'endroit puisqu'une colonne a été installée à l'emplacement exact de la tente royale. Une autre colonne, marquant un endroit où le séant royal est passé, un peu plus secrète, celle-ci est érigée à la clairière, derrière l'actuel centre des pompiers. Oui, c'était le spot préféré du roi pour regarder la bataille. Bon, j'espère qu'avec tout ça, vous serez prêts pour votre exposé d'histoire. Et bonne rentrée à tous.
Merci beaucoup Arnaud, un petit cours d'histoire, ça fait pas de mal hein, avant de reprendre l'école comme ça aujourd'hui. Alors finalement, la Franche-Comté, c'est pas si vieux qu'on est en France, hein, 3 siècles seulement. Et vous retrouvez ces histoires, ces anecdotes, bien évidemment, sur l'application Ici et sur ici.fr Besançon.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Gascogne.
À Peyrorade, la maison Bartouille est spécialisée dans le saumon et le foie gras depuis 3 générations et a ouvert la maison du saumon. Notre guide, Pauline Bartouille.
C'est mon père, en fait, à la fin des années 90, qui a eu envie d'ouvrir une boutique dans nos ateliers et qui avait envie de communiquer sur le saumon de la Dour, son histoire, sa migration. La vocation de la maison du saumon, c'est réellement d'expliquer le territoire où l'on est. Donc on va suivre le parcours de migration du saumon de la Dour, parce que le saumon de la Dour, on ne se rend pas compte, mais en fait c'est fabuleux son épopée. Il reste à peu près une année, on va dire, en rivière, et quand il fait à peu près une 20aine de centimètres, il part en mer, il va remonter les côtes françaises, Irlande, Écosse, Islande, et il va passer 3-4 ans dans la mer du Labrador, entre le Canada et le Groenland. Et quand l'appel de la reproduction se fait sentir, il fait exactement le chemin inverse et il vient se reproduire dans la rivière où il est né. C'est quand même une aventure assez incroyable que l'on explique en fait dans la maison du saumon.
Que vous expliquez à partir de quel support ?
Donc on a travaillé en fait, on a refait la maison du saumon il y a maintenant 2 ans. On a travaillé avec des scénographes qui ont notamment fait la cité du vin. Parce que nous, notre métier, c'est que, ben, vous savez, c'est de produire, on fait raconter nos histoires, mais justement, le mettre en forme, il fallait quand même quelqu'un dont c'était le métier. Donc, ils nous ont beaucoup aidés pour avoir des supports assez didactiques. Notre envie, c'est qu'on est des artisans, et des artisans, au fond, on travaille avec nos sens. C'est ça, pour moi, la vraie notion d'artisan. Donc, on voulait qu'à travers la visite, tous les sens des visiteurs soient un peu titillés, aussi bien visuels, sensoriels, il y a un fumoir, on ouvre un fumoir, on sent la fumée, voilà, on va le toucher, on travaille vraiment avec tous les sens lors de la visite. Une visite qui est uniquement guidée. On a du panneau explicatif, des vidéos, du toucher, vraiment, voilà, on va toucher les saumons. On a une table où, en effet, il y a des objets un peu cachés à trouver. Voilà, on a essayé de travailler un peu tous les supports. On a une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. On se promène aussi dans le jardin. On a reconstitué une petite barthe parce que ben, les barthes, c'est très traditionnel, les Landes. Et nous, on fume au bois d'aulne qui provient des barthes de l'Adour. Et on trouvait important d'expliquer ce concept qui est assez connu quand même pour les locaux. Mais les gens extérieurs un peu des Landes et du Pays Basque connaissent pas du tout ce système qui est quand même assez incroyable et à préserver.
La Maison du Saumon est ouverte d'avril à octobre. 45 minutes de visite guidée, suivie d'une dégustation, mais disponible toute l'année pour des ateliers de groupe. Contactez simplement la Maison du Saumon à Peyrorade. Recommandé par Ici Gascogne.
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
How I feel.
écouter ici, la nuit, et profiter du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Mayenne.
Je viens d'aller chercher ma fille à l'école et nous allons manger au restaurant, le Mixelli, qui est juste là, là, le restaurant de Bernay, les villages.
Ah, vous allez souvent au resto le Bidi, ou alors
Moi, non, mais comme je suis en vacances, madame y va de temps en temps. Bon, on y va pas souvent, mais de temps en temps. Donc, comme je suis en vacances, bah, j'en profite pour y aller avec elle.
Alors, elle a quel âge, votre fille?
Margot, elle a 5 ans et demi.
Donc, Margot, et le papa, il s'appelle comment?
Moi, je m'appelle Thomas.
Thomas. Et alors, Thomas, comment ça se fait que vous habitez ici à Bernay-les-Villages?
Alors, je suis venu à Bernay-les-Villages parce que ma conjointe a ouvert une pension de chiens et on avait besoin de trouver une maison qui avait assez de terrain pour pouvoir ouvrir cette pension.
Vous avez trouvé votre bonheur, en fait, ici?
Exactement. Ma conjointe a trouvé ce qu'il fallait. Puis moi, c'est un petit village assez calme et tranquille. C'est exactement ce qu'il nous fallait.
Et donc, vous avez Margot comme fille, mais il y a un autre enfant qui vous attend au restaurant avec votre compagne, si
Exactement.
J'ai bien compris.
Clémence, qui a 11 mois, bientôt un an, et qui est à la main, qui est juste à côté du restaurant. Donc, madame l'a récupéré pendant que moi, j'allais chercher la grande à l'école.
Mais attendez, il y a tout ici. Il y a l'école, il y a le restaurant, il y a une pension pour faire garder ses chiens chez vous, chez votre femme.
Voilà, il y a quelques commerces qui essaient de faire bouger. On a, par exemple, Hugo du Viveco, qui est assez connu sur les réseaux sociaux parce qu'il fait beaucoup de choses pour essayer de faire vivre la commune et la faire connaître. Donc, oui, c'est une commune qui demande qu'à se réveiller. Elle est un peu endormie actuellement et elle demande qu'à se réveiller.
Ouais, mais vous êtes là, vous, pour la réveiller aussi.
On essaye.
Belle journée.
Merci à vous aussi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici, Brice Hizel.
On a tous nos petits défauts. Alors, est-ce que la gourmandise en est un? Je vous laisse méditer là-dessus, mais moi, je vais vous parler du caramel.
Le petit cours de breton.
Et pas n'importe lequel. Le Graal des douceurs sucrées, et puis en plus c'est de chez nous, donc autant en parler, le caramel au beurre salé. Pourquoi je vous en parle? J'en sais rien, sûrement parce que j'ai une envie de caramel. Alors, vous allez être contents, le mot est simple. On change le C en K, ça donne caramel en breton. On peut pas faire plus simple. Par contre, on va parler du caramel au beurre salé. Donc, ça se dit caramel, amande sale. Rien que d'en parler, j'en salive. Leur pot de caramel amande sale, c'est un pot de caramel au beurre salé. Caramel amande sale. Amande, le beurre salé, parce que, encore une fois, vous le savez, le beurre doux, ça sert juste pour le bricolage, hein, pas pour la cuisine. Donc, leur pot d'amande sale pour un pot de délicieux caramel au beurre salé.
Nom d'un petit breton.
Et puis un autre nom de famille au menu du petit cours d'aujourd'hui, et rien à voir avec le caramel, c'est le roux. Rouxel ou Rouzic. Le lien commun, c'est le mot breton rouze, qui veut dire tout logiquement une personne rousse ou aux cheveux roux. Lié au rouze, la couleur rousse, donc rouze à rouze était donné comme surnom à ceux qui avaient une crinière rousse. Et par déformation ou mauvaise écriture dans les registres d'état civil, c'est devenu roux, le roux, par francisation. Mais à l'origine, dans notre langue, c'est rouze. Comme Rouzic, c'est le nom donné au pays de Châteaulin, aussi par rapport à la couleur des costumes tenant au roux. Donc, une bise, comme chaque jour, au roux, Rouzic, Roussel, et à demain. Ken Varroas, Pugur Varroas, Vodeis Roas. Demain, il fera jour à nouveau.
Le petit cours de breton, à podcaster sur ici.fr et sur l'application Ici.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Alsace.
La plupart des outils qu'on achète aujourd'hui sont pensés pour mourir jeunes. Oui. Et à l'inverse, ici, on forge des objets qui sont faits pour durer. En cet endroit, le métal chante, l'enclume et le marteau trônent au milieu de l'atelier. Je teste donc pour vous, non pas le métier de forgeron, mais celui de taillandier. Je suis à Eschbach-Roval, sur les hauteurs de Münster, à la taillanderie Luquet. Alors, elle est très discrète, hein. Elle est incorporée comme ça dans un sous-sol d'une maison. Et j'étais très loin d'imaginer ce qui se prépare derrière. Alors, je pousse la porte et je suis très vite accueilli par Soumia. Soumia Luquet, qui s'occupe, elle, de gérer les projets, les commandes et la communication de Simon, son mari, qui, lui, est dans l'atelier. Et de là où je suis, ça sent le métal chaud, oui. Mais il fait quoi, Simon, si c'est un taillandier et non un forgeron? C'est là que Soumia m'explique que tous les taillandiers sont forgerons, mais que tous les forgerons ne sont pas taillandiers. Et un peu comme son nom l'indique, eh bien c'est un artisan qui est spécialisé dans la fabrication d'outils tranchants, forgés, comme par exemple des haches ou des ciseaux à bois. C'est bon, c'est clair pour vous aussi? Parfait. Allez, on pousse la porte de l'atelier. Ouf ! Ah bah oui, il fait chaud, oui. Et ça sent le métal. Et il y a des outils, mais alors partout. Et Simon, eh bien il est chaud patate. Oui, il a déjà préparé un outil en cours d'assemblage. Et ça va être à moi de lier l'ensemble. Et cela, sans me blesser, ni me brûler, ni le brûler lui. Enfin bref, grosse pression. Hein. Alors bien évidemment, Simon me montre une première fois. Et frapper le métal incandescent, ah ben c'est pas juste une histoire de force. Ah non, non, non. C'est aussi et surtout une question de précision. Et c'est justement ça, le problème. Alors Simon, lui, il vise juste, bah, le bruit est net. Ça paraît super simple. Ah, oui, ça paraît, oui. Puis il me tend le marteau. Je saisis avec pas beaucoup d'espoir. Mais un seul objectif, réussir à taper le métal. Tape le métal, Maxime, montre que t'es capable. Et c'est avec toute ma détermination que je démarre le geste dans un élan splendide de doute et d'incertitude. Simon, lui, est stoïque. Et en moins d'une seconde, le temps ralentit quand le marteau vient épouser de toutes ses forces l'enclume. Oui, mais pas la pièce qu'il supporte. Bing ! Le marteau rebondit maladroitement. Le bruit sonne creux. Le visage de Simon se crispe avant de sourire.
Un grand moment.
Alors Simon et le marteau, eux, c'est une grande histoire qui est d'ailleurs reconnue par ses pairs, hein, parce que Simon a d'ailleurs collaboré à la fabrication des haches de charpente traditionnelles qui ont été utilisées pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ben, la classe quand même.
La Maison Luquier propose d'ailleurs des stages immersifs accessibles même aux débutants. Oui, 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 à tous les débutants, même les plus maladroits. La preuve, je me suis même pas blessé. Et ça, franchement, c'est balèze.
Ici, actu local, musique et bonne humeur.
La petite lady, garçon hasard. Qu'est-ce que me veut la miss avec ses yeux de renard derrière la voilette du chapeau, avec une plume d'autruche pour faire plus beau. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle. La petite lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son col en rose fluorescent, sa mini jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser. À force de la regarder, il faut que je dise que je veux faire des bêtises. Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher. Cendrillon, tu marches comme une reine dans les yeux de ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. Et moi, comme je t'imagine, aussi givré qu'une mandarine, j'ai pas te laisser partir avec un légionnaire. J'ai pas te laisser séduire par le premier mari qui traîne. J'ai pas
payer le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Révolutionner un domaine, ça tient à pas grand chose. Et le destin de l'Isérois dont on va parler en est peut-être le meilleur exemple.
Nom de Dieu.
Adolphe Pégou vient au monde le 13 juin 1889 à Montferrat, à côté du lac de Paladru, dans une famille d'agriculteurs.
Paysans, c'est dégueulasse.
Mais labourer des champs, s'occuper des semailles, c'est pas le projet pour Adolphe. Dès qu'il a 18 ans, bye bye la ferme, bonjour la grande muette, il s'engage dans l'armée et c'est là qu'il va faire une découverte qui va changer sa vie, le pilotage aérien. Revenu à la vie civile, Adolphe Pégou ne chôme pas. En moins d'un mois, il passe du statut de débutant à l'obtention du brevet de pilote.
Vous avez fait à 4G un piqué inversé avec un MiG-28.
D'ailleurs, un mois, c'est encore le temps qu'il lui faudra pour être embauché comme pilote d'essai par Louis Blériot, l'une des références de cet univers à l'époque.
Waouh ! Tout le monde se calme !
Mais Adolphe ne va pas s'arrêter là. C'est un enchaînement de premières qui va faire sa légende. Parce que le 19 août 1913, première, il est le premier pilote à sauter en parachute.
Hé hey Adolphe, on pensait t'attacher un gros drap dans le dos pour que tu sautes d'un avion qui pourtant fonctionne très bien en plein vol. Qu'est-ce que t'en penses ?
Et alors que la descente se fait tranquillement, il observe son avion qui descend tout seul. Sans personne aux commandes, Pégou voit son appareil faire des figures qu'il n'a jamais vues de sa vie. Sa première pensée, c'est de se dire
« C'est de toute beauté !»
Et la seconde, mais des manœuvres comme ça, ça pourrait permettre à un pilote de se sortir de situations désespérées. Une réflexion qu'il va mettre en application un mois plus tard, c'est décidément une constante, en réalisant le premier vol tête en bas de l'histoire, 400 mètres la margoulette inversée, et devant son patron Louis Blériot.
Quelle histoire ça aussi.
Le 21 septembre 1913, moins d'un mois après cette performance, le bougre accélère. Adolphe Pégou réalise cette fois tout un programme de figures acrobatiques qui se termine par le désormais célèbre loupé.
Attends, que je t'explique mon idée, enfin.
Adolphe Pégou est-il le premier à l'avoir réalisé ? Les historiens n'arrivent pas à trancher entre lui et le russe Piotr Nesterov, mais ça n'empêchera pas la légende de l'Isérois de naître à ce moment.
Impeccable, non ?
Toute la presse relate sa démonstration. Il est demandé de partout, en Europe, en Russie, même en Allemagne, où on n'est normalement pas très fan des Français à l'époque. Cette star de la voltige se produit devant parfois des dizaines de milliers de personnes. Et alors que les États-Unis réclament aussi de voir Adolphe dans leurs cieux, la Première Guerre mondiale éclate. Adolphe Pégou est affecté au 2e groupe d'aviation de Reims et rapidement, le professionnel des acrobaties aériennes utilise son savoir-faire pour s'imposer dans les airs. Premier pilote à remporter 5 combats aériens de l'histoire, Adolphe Pégou devient donc le premier as de l'histoire de l'armée française.
Il est vers Bretagne aussi.
Pégou, pionnier jusqu'au bout. Sa légende prendra fin le 31 août 1915. Il rencontre dans le ciel Otto Kandulski, l'un de ses anciens élèves et pilotes allemands, là-bas dans les airs, pas loin de Belfort. L'aviateur germain et son mitrailleur lui rendront hommage quelques jours plus tard en déposant une couronne de fleurs ornée de l'inscription « À Pégou, mort en héros pour sa patrie ». Ses inventions ne furent pas suffisantes pour lui sauver la vie. Adolphe Pégou, le pionnier de la voltige aérienne, est un Isérois, illustre Isérois.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts.
Wikizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
Les réunions de famille sont propices à de multiples conversations. Et ce qu'il y a de bien quand on est en famille, c'est qu'on peut dire du mal de tous ceux qui ne sont pas là. On s'en fout, ils ne sont pas là. De ceux qu'on ne connaît pas, mais qui sont connus. Eti, t'aimes bien Vianney, Eti ? Oh, ça dépend, t'aimes bien Tizotte ? Oh, pouf. Voilà, on ne sait jamais, ça serait dommage de se fâcher pour un gendre idéal, hein, le beau papa dont tout le monde rêve et vas-y que je t'ai fait des canins, gna gna gna. Et ben dans ces cas-là on dit caresse de quin, char amène que des puces. Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider. Quin puce, on a vite fait le rapprochement, on n'est pas en train de comparer ce pauvre Vianney à un chien rempli de puces. Quoique si Vianney était un chien, ce serait quoi ? Oh, un quin de sac à main en tout cas, je suis sûr. Bref, caresse de quin, char amène que des puces.
Définition.
Voilà, caresse de chien ne peut te ramener que des puces. Il ne faut pas écouter la voix des sirènes autour qui viennent vous faire des câlins ou des compliments juste pour obtenir quelque chose de vous.
Exemple.
Des caresses de quin sont utilisées pour obtenir de l'argent de poche, des nouvelles fringues, des places pour un concert, des droits SACEM ou un disque d'or. Oh, c'est aussi dû à la propension des chiens à venir vous faire des mamours pour obtenir quelque chose. Alors, est-ce que le chanteur de charme à guitare et sourire enjôleur dont le second métier est beau papa gentil, à l'œil en amouré, la truffe humide, fait tout ça pour qu'on l'emmène faire pipi ? Je ne sais pas, mais un doute subsiste.
Ici,
ici,
sur ma peau gravée par la vie, sous mes yeux cernés par les nuits, les cicatrices de la route voyage cerné par le doute. Les seules traces qu'on gardera seront tes actes, seront tes choix. Ouvrir les yeux et pour une fois essayer d'être fier de soi. Essayer d'être fier de soi. Les faux semblants, les coups tordus. Pouvoir soutenir son regard ou voir un autre dans le miroir, ça reste un choix par hasard. Rester soi-même quand il fait noir. Rester soi-même quand il fait noir. Que j'ai